Et 11h sur Radio Campus Tour, et voici que se lance, auditeur, auditrice, l'incroyable, l'inénarrable émission La Méridienne. Rien que ça. Et pour commencer cette émission du 25 juin 2024, je vous propose de nous suivre, auditeurs, auditrices, dans le quartier Bousignac à Tours. En effet, le mardi 18 juin, nous nous sommes rendus dans le quartier Bousignac en compagnie de notre stagiaire de seconde, Hippolyte, pour donner la parole aux habitants du quartier, puisque, rappelons-le, c'est une des missions premières du média associatif local que nous sommes. Alors, c'est parti, on écoute les habitants et les habitantes du quartier Bousignac. On se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Vous écoutez La Méridienne.
Le mardi 18 juin, Radio Campus Tour s'est rendu au quartier Bousignac où les salariés de l'espace social EVS se mobilisaient dans le contexte politique des élections législatives à venir. Les habitants du quartier étaient invités à prendre parole pour donner leur ressenti sur la situation actuelle. Avec Mélissa et Sébastien de Radio Campus, nous sommes aussi allés à leur rencontre, micro en main. Je suis Hippolyte, élève de seconde et stagiaire à Radio Campus, et vous allez donc écouter le reportage que j'ai réalisé à Bousignac avec la parole donnée aux habitants et la lecture de témoignages par Mélissa et Sébastien.
Alors Hippolyte, tu as des choses à lire, est-ce que tu peux nous dire comment tu as... T'as fait ce recueil là?
Aujourd'hui avec mes camarades, on est allé chercher des gens dans la rue pour leur poser diverses questions. Et du coup on a eu des réponses par rapport au vote et à leurs aux opinions politiques. On remarque que la majorité des gens ne votent pas, mais cependant disent que les jeunes, eux, doivent voter parce qu'ils représentent le futur.
Est-ce que tu veux nous lire ce qu'il y a décrit sur le... Parce que vous avez noté les propos des habitants du quartier. Est-ce que tu veux nous lire ce qu'ils ont dit?
Est-ce que voter, ça sert?
Et alors, qu'ont répondu les gens?
Non, voter, ça sert à rien, c'est le premier. J'ai jamais voté parce qu'il avait 15 ans. Ça dépend des personnes. Je ne suis pas la politique. Oui, voter, ça sert. Et à chaque fois, on remarque d'ailleurs que ceux qui disent que ça sert, c'est les jeunes. Vu que je ne suis pas la politique, je ne sais pas. Pour la deuxième question qui est vous votez pour qui? La première personne a répondu, je cite, c'est un peu le bordel quand même vers la gauche et la droite.
Macron fait le bordel parce qu'il veut du changement. Bien et mal la dissolution de l'Assemblée nationale, je ne suis pas la politique.
Et du coup on a eu que... Pour la deuxième question, on a presque tout le monde sur 5 personnes, il n'y en a que 2 qui ont répondu du coup. Et c'était une personne âgée et un jeune je crois.
Là c'est Hugues, 66 ans.
Oui.
Et lui dit, il y a du bien partout. Je suis en retraite, c'est les jeunes qui touchent, pas nous. Les jeunes craignent le plus et devraient voter à partir de 16 ans. C'est bien pour les jeunes de voter au lieu d'avoir des vieux partout. Que ce soit une femme ou un homme au pouvoir, c'est pareil, c'est toujours le... Il y a trop de social, il faut trouver un juste milieu.
Du coup, le dernier, c'est un jeune aussi, il a dit que voter, ça servait.
Voter pour avoir les mêmes idées que ceux à qui je donne ma voix.
En gros, là, il a dit, pour la deuxième question sur par rapport à pour qui il vote, il a dit je vote avec ceux dont je suis d'accord.
Voilà, voter pour ceux qui ont les mêmes idées que ceux que moi, en fait. Voilà. Les gens qui... Il dit aussi que Steve, 16 ans, dit qu'ils ne se sont pas représentés parce qu'il n'y a pas... Bon, alors, par contre, il dit que l'Assemblée nationale, la dissolution de l'Assemblée nationale, bon, ça l'intéresse pas.
Mais tous à peu près, ils étaient pas très informés sur la politique, hein. Vieux comme jeunes.
Eh ben, merci à toi d'avoir lu les contenus. Peut-être que tu peux rappeler avec qui tu les as récoltés, ces contenus.
Avec Abdenour et Camilla.
Voilà, qui sont en stage aussi, je crois.
Qui sont en stage à l'EVS Roche-Pinard.
Voter, c'est un devoir, mais c'est aussi un droit. Beaucoup de nos ancêtres se sont battus pour ça. Je déplore que le vote blanc ne soit pas pris en compte. Françoise, 62 ans.
Moi, je préférerais voter, mais je ne peux pas. Salman, 40 ans.
Voter, ça permet de faire changer les choses pour le travail, pour apporter des choses en plus dans les quartiers. Youssef, 44 ans.
Si le RN est élu, qu'est-ce que cela change pour vous ?
Bah, ça serait très grave et je ne pense pas qu'il puisse être élu puisqu'il n'a pas les épaules pour. Ils font pas le poids. Mais moi, je pense que ce n'est pas possible parce que vu la pression, le peuple est souverain et vu la pression dans toutes les villes de France, tous les jeunes qui se soulèvent, la population, le peuple est souverain. Il faut rester très positif et je suis très positif. Dans ma vie de tous les jours, ça ne changera absolument rien, je pense. Ça changera peut-être effectivement mon entourage, sur les craintes qu'ils peuvent avoir pour le RN. Mais moi, dans ma vie de tous les jours, je ne pense pas que ça changera quelque chose.
Vous pensez pas que vous aurez, vous serez plus stigmatisé si le RN passe ?
Pas du tout, non, je ne pense pas. Stigmatisé en quoi ? Par rapport à quoi ? Par rapport à mon origine ?
Oui.
Par rapport à mon lieu d'habitation ? Non, oui. Je ne pense pas, non.
Ok.
Non, parce que moi j'aime mon quartier, je trouve que c'est une chance d'habiter dans un quartier. C'est enrichissant parce qu'il y a différentes personnes, de cultures différentes, dont je fais partie et... Donc non, je ne me sens pas stigmatisée. Pas du tout.
Je n'irai pas voter. Ce sont toujours des mafieux qui nous gouvernent. Pascal, 54 ans.
Voter, ça ne sert peut-être à rien, parce qu'on ne nous écoute pas. Il faut arrêter de donner des aides à tout le monde. Fatou, 58 ans.
Voter, ça ne sert à rien. Nous sommes trop petits. Je vote par devoir, sans y croire. Certains votent sans savoir. Il faudrait s'occuper des Français en priorité et que les plus riches partagent avec les plus pauvres. Patrick, 56 ans.
Quelles actions voudriez-vous voir se concrétiser dans votre quartier ?
Si c'est possible, je souhaiterais plus d'activités en fait pour les jeunes. Et pour les jeunes et les personnes seules. Voilà.
Les personnes âgées ?
Pas forcément âgées, moi je suis seule, vous voyez. Hein, je suis une maman solo et parfois c'est difficile de trouver des activités à faire, des rencontres aussi dans les quartiers, discuter avec ses voisins. Vous voyez, moi je ne connais pas tous mes voisins. Dans mon étage, je ne connais que deux. Hein. Bon, faudrait oui, proposer des activités, je pense. Des activités qui permettent de se rencontrer, d'échanger, voilà.
Alors c'est pareil, hein, c'est un peu vaste, il y a beaucoup de chantiers en fait au niveau politique qui devraient être menés sur les différents territoires, hein, Bousignac comme un autre. Et effectivement, moi j'aimerais que de façon, effectivement sur les calendriers politiques, je sais que c'est très compliqué d'avoir quelque chose qui serait d'ordre du mensuel, mais au moins de façon trimestrielle, avoir des rencontres plus pérenne, dans la chronologie qui puisse, on va dire, s'inscrire dans le temps avec les pouvoirs publics, les différents élus qui aujourd'hui représentent les différents territoires, hein, que ce soit les municipalités, les départements ou les régions, pour faciliter cette parole et puis surtout c'est de capter les véritables enjeux, quoi. De ne pas sentir, on va dire, un peu délaissé chacun dans son petit territoire.
Qu'il y ait plus de social, enfin il y a du social, mais Tours c'est une région. J'espère que la région va évoluer en fait. Après, surtout au niveau des assistantes sociales, parce qu'heureusement qu'il y a l'EVS, parce que les assistantes sociales, c'est pas. Moi je fais du social toute seule parce que c'est mon domaine et je suis d'une région sociale, mais j'espère que ça va évoluer, notamment ça va évoluer pour les quartiers, pour l'emploi, surtout à Tours pour l'emploi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois, pour que ça soit un peu plus diversifié aussi, puis pour toutes ces origines et que surtout pour l'emploi, que ça évolue, enfin il faut faire évoluer les choses et on n'a pas le choix de toute façon. On n'a pas le choix, ça passe ou ça casse. Donc faut mieux que ça soit nous qui passons en fait. Si on recule, c'est qu'on a perdu. Donc on est obligé de s'impliquer, on n'a pas le choix de toute façon. Tout le monde, on est tous dans le même bateau.
Voter, ça sert. Même si on n'est pas d'accord, si on vote blanc. Être citoyen, c'est donner son avis. Marie-Vonne, 78 ans.
Je suis étrangère, je pourrais être virée, donc je voudrais voter. Mais il faut rester positif, les quartiers ont une voix forte. Anonyme, de 40 ans.
J'ai pas le droit de choisir de président. J'ai grandi en URSS, la France est un vrai pays démocratique. En France, on a le droit de manifester, alors qu'en Russie, c'est la prison. Massoud, 42 ans.
Si vous étiez première ministre, quelle première mesure prenez-vous ?
Bah déjà de reconnaître la Palestine, puis après pour le droit social en fait, tout ce qui est social en fait, puis de faire payer les riches, comme le Front de Gauche en fait, moi parce que j'adhère aux idées de Mélenchon et de Sébastien Delogu à Marseille, qui m'inspirent beaucoup parce que on voit leur comment ils sont authentiques, surtout leur authenticité en fait. Après, chacun ses idées, mais de toute façon, il n'y a qu'un front de gauche et je pense que c'est mieux comme ça. Ça va donner beaucoup. Faut donner beaucoup plus de poids dans la balance, en fait.
Moi, personnellement, si j'étais Premier ministre, la première chose sur laquelle, le premier sujet sur lequel j'irais, ça serait de travailler sur un dispositif, une réforme, je sais pas, quelque chose qui s'apparenterait un petit peu à ça, pour essayer de réconcilier. On parle beaucoup de reconquête, de choses qui sont amenées, on va dire, à intervenir sur les territoires pour aller reconquérir. Mais avant d'aller reconquérir, moi je pense qu'il faut tout simplement réconcilier. Donc redonner un petit peu la parole à tout le monde, trouver des lois qui permettent aujourd'hui d'améliorer cette démocratie, cette participation un peu citoyenne. Aujourd'hui, ce qu'il nous faudrait, c'est pour se réconcilier, c'est communiquer, se comprendre. Et je pense qu'il faudrait à un moment donné retrouver des leviers qui nous permettent de nous rencontrer et puis discuter et puis surtout avancer quoi. Avancer conjointement sur des sujets, des problématiques qui nous concernent tous.
Alors la première mesure que si j'étais première ministre, j'essayerais de prendre la mesure suivante, c'est celle de bloquer toutes les augmentations prévues au niveau des foyers pour le gaz, l'électricité. Et ensuite, la deuxième, je vais aller directement là-dessus, ce serait de bloquer des prix, en fait, au niveau de l'essence, des produits de première nécessité qui sont très importants pour les familles, qui n'ont pas beaucoup de revenus. J'essayerai de faire ça directement après. Mais déjà, en premier lieu, bloquer les prix des énergies.
C'est en votant qu'on fait les nouvelles lois. Si les gens ne sont pas racistes, alors il faut qu'ils aillent voter pour un autre parti que l'extrême droite. Sabrina, 12 ans. Voter, ça sert à rien, ils font ce qu'ils veulent, les riches deviennent plus riches, les pauvres plus pauvres. Mais je vais faire mon devoir pour éviter que le RN passe. Mohamed, 56 ans.
Vous sentez-vous représenté et entendu par les médias ?
Non, représenté, non. Et entendu par les médias, non plus. Vous parlez des médias, des grands médias qu'on voit à la télévision ? Non, pas du tout, je me sens pas représentée. Quoique on voit de plus en plus de personnes issues de l'immigration, mais il y a en fait une ligne éditoriale qui est bien cadrée et dont je n'ai pas trop d'affinité avec ça. Donc je me sens pas représentée par ça. Bon, même s'il y a des débuts, timide. Après, il y a sûrement des alternatives, comme là, la radio, les chaînes, il y a les réseaux sociaux, il y a les chaînes sur YouTube, effectivement, oui. Des fois, j'ai plus d'affinité avec ces choses-là, en fait, sur les réseaux. En fait, c'est de l'alternative, quoi. Mais non, j'ai pas trop de points communs, je me sens pas représentée.
dans le média public, on va dire, les grands médias, quoi.
Actuellement, pas du tout. Donc actuellement, effectivement, il y a quelque chose, voilà, qui se passe, c'est que voilà, on est tous, on va dire, amenés à observer sur les réseaux, sur les différentes plateformes, les différents discours, les différentes discussions qu'il y a autour, voilà, des problématiques dans les médias. Et effectivement, aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est un peu plus de représentation et un peu plus également de temps de parole.
Moi, j'ai une question pour vous, monsieur. Vous disiez qu'on voit toujours les mêmes dans les médias. C'est qui pour vous, ce qu'on voit trop ?
Ah, c'est toujours, on va dire, les mêmes experts, les mêmes politiques, les mêmes représentants de différents syndicats, organismes, partis qui sont interviewés, et ainsi de suite. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a besoin du commun. D'aller, on va dire, chercher des personnes, on va dire, directement dans les lieux où aujourd'hui il y a des problématiques, pour effectivement avoir des paroles un petit peu plus libérées et puis surtout un petit peu plus, on va dire, authentiques.
Non, les médias, non. J'adhère pas aux médias du tout, non. Pas du tout, non.
Auditeurs, auditrices, vous venez donc d'écouter sur Radio Campus Tour 99.5 FM un superbe reportage réalisé par notre équipe au quartier Bousignac. Merci à Hippolyte, notre stagiaire de seconde, qui a largement participé au montage, à l'enregistrement de ces témoignages d'habitants. Suite à quoi, vous avez entendu un peu de musique. Donc c'était Noir, c'était Sheikha Rimiti, avec mon très bon accent. Et l'émission se poursuit. Alors, toute autre chose maintenant sur nos ondes, nous allons parler de micro-angiopathie thrombotique. C'est une maladie rare, c'est des maladies rares. Nous allons parler aussi du centre de référence sur les maladies rares de Tours, voilà, puisque ce centre leur est dédié. Alors j'ai de la chance, puisque avec moi en studio, j'ai deux experts pour parler de ces projets de recherche-là. Il s'agit du professeur Jean-Michel Halimi, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes néphrologue et vous portez justement ce centre de référence maladies rares, alors CRMR, constitutif du centre Val-de-Loire, micro-angiopathie thrombotique. Et vous travaillez un programme de recherche avec une voix que vous avez déjà entendue sur nos ondes. Si vous êtes attentif, c'est le professeur Sébastien Roger. Bonjour.
Bonjour Mélissa, bonjour à tout le monde.
Alors là, vous représentez l'ex-unité de recherche EA4245 transplantation immunologie inflammation qui maintenant s'appelle ischémia. Ça semble quand même plus simple et plus poétique.
Ben oui, oui, tout à fait. Alors c'est vrai que jusqu'au mois de décembre 2023, on s'appelait comme ça, transplantation immunologie inflammation. Et donc depuis le 1er janvier 2024, eh bien, on a une unité de recherche qui est labellisée à la fois par l'université et par l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Et donc voilà, donc notre projet, c'est de s'intéresser à l'ischémie. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle ischémia en anglais. Après, on a un titre qui est un petit peu plus long, c'est « Membrane Signaling and Inflammation in Reperfusion Injuries ».
Ne soyez pas vexant comme ça avec les gens qui ne maîtrisent pas les langues étrangères.
Non, mais pour les amis, on s'appelle ischémia. Et donc, l'idée, c'est de s'intéresser à différentes conditions pathologiques dans lesquelles les organes se retrouvent à un moment donné privés de sang, donc privés à la fois d'oxygène et de nutriments. Et donc, on sait que ça génère des lésions au sein de l'organe. Et donc, nos collègues cliniciens, ce qu'ils souhaitent dans ce cas-là, c'est rétablir le flux sanguin le plus rapidement possible. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que quand on rétablit le flux sanguin, eh ben, on a des lésions supplémentaires qui peuvent se mettre en place, qui sont plus ou moins étendues et qui peuvent, dans le pire des cas, aboutir à une perte de fonction de l'organe. Donc nous, au sein du laboratoire, ce que l'on souhaite, c'est comprendre les mécanismes qui sont impliqués pour pouvoir les déjouer, d'une part. Et puis d'autre part, si on peut trouver aussi ce qu'on appelle des biomarqueurs qui soient suffisamment précoces et suffisamment sensibles, qui nous permettent de savoir comment pourrait évoluer le patient au moment où on rétablirait le flux sanguin. Et ça nous permettrait, enfin ça permettrait à mes collègues de cliniciens de pouvoir prendre en charge de façon, on va dire, personnalisée les patients. Et puis aussi pour nous de développer de nouvelles stratégies avec l'utilisation de nouveaux médicaments ou reproposer des médicaments qui existent déjà pour certains traitements et les proposer maintenant pour les maladies ischémiques. Comme ça peut être le cas par exemple pour des biomédicaments de type anticorps ou des petites molécules qui sont déjà sur le marché. Voilà, donc ça, on s'intéresse à ça dans différents contextes. Au départ, c'est vrai qu'on s'intéresse à ça dans un contexte particulier qui est celui de la greffe d'organes. Et nous, au sein du laboratoire et au sein de l'hôpital, on est très spécialisé sur la transplantation rénale. Donc on s'intéresse beaucoup aux reins. On s'intéresse aussi à la transplantation cardiaque. Et on s'intéresse à une condition qu'on connaît bien, hein, qui est la crise cardiaque, hein, l'infarctus du myocarde. Donc en fait, jusqu'à présent, nos deux organes d'intérêt, pour lesquels on porte le plus grand intérêt, c'est le cœur et le rein. Et on s'intéresse aussi à la discussion qu'il peut y avoir entre ces deux organes, puisqu'on sait que quand le cœur est malade, eh bien souvent, ça entraîne des défauts de fonctionnement au niveau du rein. L'inverse, c'est possible aussi. Et puis il y a des cas où les deux organes tombent malades en même temps. Donc on s'intéresse à ça. Et puis effectivement, donc on a développé des projets sur l'infarctus, sur la transplantation, sur la communication entre le cœur et le rein, ce qu'on appelle le syndrome cardio-rénal. Et ça, ce sont des projets qui sont aussi portés par Jean-Michel, qui est à côté de moi. Et puis plus récemment, et grâce à l'expertise clinique qui est portée par Jean-Michel, on s'intéresse effectivement à ces maladies rares que sont les micro-angiopathies thrombotiques. Donc, ce sont des maladies rares qui sont relativement compliqué à traiter, même souvent compliqué à diagnostiquer. Et donc on a la chance que ici à Tours et pour la région, eh bien, Jean-Michel porte un centre de référence sur ces maladies rares qui nous permet de développer des outils cliniques, diagnostiques, et aussi nous au laboratoire, hein, puisqu'on travaille véritablement main dans la main, aussi de pouvoir développer des projets de recherche qui vont nous faire mieux connaître ces pathologies.
Je me tourne vers vous, Jean-Michel Halimi. Qu'est-ce que vous aimeriez dire sur ce centre de référence ?
Donc ce centre de référence, finalement, permet de mettre ensemble des compétences et des ressources pour faire en sorte que les gens soient le mieux traités possible. Alors, ces maladies rares, micro-angiopathie thrombotique, donc déjà le mot lui-même veut dire que c'est compliqué. Effectivement, c'est compliqué. Donc le premier point, c'est la formation, c'est-à-dire que les médecins ne sont pas toujours capables de diagnostiquer l'existence de ces micro-angiopathies thrombotiques. Donc ce n'est pas simple. Et une fois qu'on a dit que c'est une micro-angiopathie thrombotique, il faut être capable aussi de donner le bon traitement. Car non traitées, c'est des maladies qui sont très très graves sur le plan cérébral, sur le plan rénal, sur le plan cardiaque et sur le plan vital. Et donc on a développé des partenariats avec la médecine intensive et réanimation et d'autres services, et de biologie aussi, pour faire en sorte que la formation soit meilleure à l'intérieur de l'hôpital, et puis aussi qu'on puisse développer des axes de recherche, et on bénéficie localement de la présence d'une équipe de recherche qui est dédiée dans ce domaine, qui s'appelle Ischemia. Et donc ce centre de référence maladies rares, micro-angiopathie thrombotique, il y en a que 6 en France, donc on est un des 6. On attend de nous des démarches d'éducation, de diagnostic, de traitement, et puis de relations avec les patients. Parce que les patients sont très démunis quand on leur dit « vous avez telle maladie », et ils disent « mais c'est quoi ce truc ?» On essaie de leur expliquer, mais c'est compliqué. Et donc l'explication qu'on donne, c'est il y a des petits vaisseaux qui se bouchent, soit dans le rein, soit dans le cœur, soit ailleurs. Et il faut trouver la cause de ces petits vaisseaux qui se bouchent et faire en sorte que ça se débouche. Et quand ça se bouche et ensuite ça se débouche, qu'il y ait le moins de dégâts possible pour que les gens se portent le mieux. Et donc c'est tout le travail qui est fait à Ischemia qui va pouvoir être remis ensuite chez les patients. Donc on dit finalement qu'on part du patient pour comprendre un problème, enfin pour identifier un problème de santé. Le labo est là pour essayer de comprendre ce qu'on peut y faire. Et puis ensuite, une fois qu'on a compris, essayer de le tester à nouveau chez le patient pour qu'il aille mieux. Donc c'est cette articulation centre de référence MAT et Ischemia, ça sert à ça.
Eh bien merci. Alors peut-être qu'on peut en dire plus pour nos auditeurs curieux justement sur ces bouchons là, sur ces MAT. Donc c'est quoi? C'est un caillot, enfin disons de plaquettes qui se met dans une veine. Comment ça marche? Pourquoi? Qu'est-ce qui bouche la veine et comment?
Alors c'est pour les gens qui aiment l'histoire, j'en fais partie. Ça a commencé en 1926. Il y a un type qui s'appelle Moscovitz qui a décrit l'histoire d'une jeune femme, il l'a rapporté, qui avait 26 ans et qui avait les globules rouges qui étaient en très petite quantité, donc une anémie, des plaquettes qui étaient en quantité aussi très très faible, des plaquettes basses, et puis un certain nombre de désordres à côté. Et il ne savait pas ce qu'elle avait, il l'a décrit très très bien. Bon, cette jeune femme est décédée, et à l'époque, le taux de décès, quand on ne comprenait pas, c'était 85%. Et donc depuis, on a fini par comprendre comment ça marchait. Et donc, in fine, voilà ce qui se passe. Il y a des sortes de tout petits grillages qui se forment dans des tout petits vaisseaux. Et les globules rouges sont comme des voitures, si vous voulez, qui foncent sur une autoroute, sauf qu'il y a un grillage, et donc ils se pètent, ils se cassent au contact de ce grillage. Et donc les plaquettes viennent ensuite, avec la fibrinogène, viennent faire des petits de la colle, si vous voulez, de telle manière que ça arrête de saigner. Et donc, c'est dans tes petits vaisseaux que ça se passe. Et la cause, elle peut être très diverse. Il peut y avoir plein de choses particulières. Par exemple, des médicaments peuvent entraîner ça. Des infections peuvent entraîner ça. Le développement d'anticorps particuliers peuvent entraîner ça. Et donc, tout le but, c'est d'identifier chez un patient qu'il l'a, ensuite trouver la cause et traiter la cause. Et donc c'est à la fois une urgence, et à la fois, comme c'est compliqué, comme la plupart des situations urgentes, il faut s'asseoir 5 minutes et réfléchir avant de faire n'importe quoi. Et donc c'est ce qu'on fait. Voilà.
Alors, par hasard, c'est quoi la différence avec un AVC ? Puisque vous avez parlé rein, cœur, et du coup, on a déjà eu la chance d'avoir des, entre guillemets, cervologues dans cette émission, donc, qui nous ont expliqué qu'ils ont, eux, retiré les caillots dans le cerveau. Du coup, c'est quoi la différence avec un AVC ?
Tout à fait. En fait, un accident vasculaire cérébral, c'est souvent dû à un gros caillot dans une grosse artère. Par exemple, une artère cérébrale moyenne, ça fait plusieurs millimètres quand même, c'est pas rien. Là, c'est des tout petits vaisseaux, c'est des vaisseaux qui sont 20 fois plus petits, si vous voulez. Donc des tout petits vaisseaux, et pas du tout des gros vaisseaux. Donc c'est comme si vous aviez un petit caillot dans un tout petit vaisseau, au lieu d'avoir un très gros caillot dans un gros vaisseau. Et donc autant un gros caillot, vous pouvez monter une sonde et retirer ce caillot, c'est ce qu'ils font maintenant et de manière extraordinaire, c'est vraiment merveilleux. Autant, si vous avez des milliers de petits caillots dans des milliers de petits vaisseaux, ben vous ne pouvez pas le faire, parce que c'est un peu partout. Alors parfois, c'est dans, plein dans les reins, parfois c'est dans l'intestin, dans le cerveau, dans le cœur. Et donc, toute la question est de savoir d'où ça vient, de trouver la cause et de la traiter. Mais c'est ça la grande différence. La cause est différente, et ce n'est pas du tout sur les mêmes artères. L'un se passe sur un tuyau énorme, l'autre, c'est un tout petit tuyau. Et donc, on ne peut pas mettre une sonde, c'est de l'ordre du micromètre, vous voyez.
Et donc, on a bien compris que les organes meurent, en fait, s'ils sont bouchés comme ça, pardon pour, la pour les termes un peu simplistes. Mais du coup, il y a aussi l'idée de, on essaie de, peut-être de dissoudre ces caillots-là, ces agrégats de plaquettes. Mais est-ce que est-ce qu'on arrive à le dissoudre ou si on le fait bouger, en fait, s'il migre, est-ce que ça ne va pas aller boucher autre chose ailleurs?
En fait, c'est surtout d'abord de voir si on peut protéger les organes du fait qu'il y a des petits caillots dans des petits vaisseaux. Et donc il y a des stratégies, il y a des réflexions actuelles pour dire, ok, si on mettait tel type de médicament, peut-être qu'on pourrait empêcher l'organe de souffrir, même si la maladie est là. Donc c'est une stratégie. L'autre stratégie, pour l'instant, celle que vous décrivez, c'est-à-dire le fait de dissoudre ou d'empêcher que ça continue à se créer, pour l'instant, on ne sait pas le faire. Et donc, tout ce qu'on sait faire, c'est soit protéger les organes, enfin, on sait faire, c'est une voie de réflexion, ou interrompre la maladie qui est la cause. Par exemple, un médicament, un cancer, une infection, des anticorps, ça, on peut travailler là-dessus. Mais une fois que le caillot est là, sur des tout petits vaisseaux, c'est très difficile de l'enlever. Il va s'enlever tout seul à un moment ou à un autre. Ça va s'enlever tout seul. Et donc, c'est d'ailleurs ce qu'on voit avec les gens qui ont eu ce type de problème de santé. Quand ils s'en sortent bien, et c'est Dieu merci souvent le cas, et bien avec le temps, au départ ils ont des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, des troubles de l'attention, etc. Et puis avec le temps, ces petits vaisseaux s'en vont, le cerveau qui est très plastique finit par retrouver des fonctions, et au bout de 2 ans, on dit bon, il reste encore des tout petits trucs, mais franchement, ça n'a rien à voir, parce que les petits caillots se sont enlevés, vous voyez. Donc, y a plein de recherches, et une des recherches, à mon avis, les plus prometteuses, c'est ce qui se passe au niveau d'ischémia, c'est de dire, ben voilà, quand y a des destructions de cellules, y a de l'activation de certains trucs, qu'on appelle les voies purinergiques, si on arrivait à empêcher cette activation dans les petits vaisseaux, peut-être que les organes seraient mieux protégés. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on est en train de travailler.
Sébastien Roger, est-ce que vous voulez en dire quelque chose ?
Ouais, non, c'est fascinant. Hein. Pour moi, c'était fascinant, moi qui suis scientifique et qui ne connaissais pas du tout la pathologie. Alors, c'est un vrai défi au niveau clinique. Et ça, je pense que Jean-Michel l'a bien expliqué. C'est d'abord uniformiser les pratiques cliniques pour savoir diagnostiquer aussi rapidement ces maladies qui sont rares. Peut-être qu'on se rendra compte qu'elles sont peut-être un petit peu moins rares que ce qu'on le pensait si elles sont bien diagnostiquées. Et après, il y a un défi, c'est la compréhension des mécanismes sur le plan, cellulaire, moléculaire et même sur le plan du tissu. Et donc, ça nécessite qu'on mette en place au laboratoire un certain nombre de modèles qui soient pertinents pour pouvoir étudier ces pathologies. Donc là, c'est pas simple. Et en même temps, c'est très enthousiasmant parce qu'on est emporté ensemble dans le même navire et on essaye d'avancer ensemble pour mieux comprendre l'origine de ces pathologies. Donc ça nécessite qu'on réfléchisse, comme disait Jean-Michel, et qu'on réfléchisse avec plusieurs compétences. Et on a de la chance parce qu'au sein de l'unité, on a beaucoup de ces compétences. On a les spécialistes des plaquettes et de l'hémostase. On a des gens qui connaissent donc très bien les voies de signalisation qui sont impliquées dans ce qu'on appelle l'ischémie reperfusion, donc quand les organes sont privés d'oxygène et de nutriments, et donc l'inflammation qui va en résulter, parce qu'il y a une inflammation qui est là, qui a un rôle normalement qui est bénéfique. Hein. L'inflammation, c'est un phénomène physiologique qui a pour but de réparer le tissu. Mais on se rend compte que dans ces pathologies-là, on a une inflammation qu'on appelle stérile, et donc qui est néfaste au bout d'un moment. Elle est néfaste parce que soit elle est trop forte en amplitude, soit elle dure trop longtemps dans le temps, et donc ça aboutit au remodelage tissulaire. Et quand le tissu il est remodelé, en fait, il perd sa fonction originelle. Donc on a besoin de ça. On a des gens qui sont spécialisés en médecine vasculaire, en cardiologie, en néphrologie, en pharmacologie. Et donc, on a une grande chance au sein de l'unité, c'est de pouvoir apporter ces différentes compétences, et que tout le monde travaille et réfléchisse autour de la table pour développer les modèles et un petit peu mieux comprendre. Ceci dit, on va aussi chercher d'autres compétences. Par exemple, cette année, Jean-Michel co-encadre avec d'autres collègues, avec un collègue biologiste, médecin biologiste. Il co-encadre un stagiaire de Master 2 qui est un étudiant qui fait des maths et des statistiques. Parce qu'on a besoin, pour pouvoir avancer dans nos connaissances, de repousser les frontières des disciplines. On a besoin d'avoir une vision plus globale de ces pathologies et revenir à des éléments qui sont centraux. Et donc ça va de là... des maths, de la physique. On a un projet d'intelligence artificielle qui va se mettre en place avec des informaticiens et donc des mathématiciens, qui permettra certainement d'améliorer le diagnostic de la maladie. Donc tout ça fait qu'autour d'une maladie qui est quand même grave, hein, ça, il faut quand même, c'est quand même important de le répéter, et ben, nous, on a des projets qui sont hyper enthousiasmants parce qu'on arrive à se fédérer autour et on espère qu'on arrivera à apporter un certain nombre de réponses sur les différents plans, sur le plan du diagnostic, du traitement, de la compréhension et donc aussi de la formation des cliniciens.
Alors, une maladie rare, ça veut dire que ça touche combien de personnes à peu près ?
Alors, c'est une très bonne question et Sébastien a raconté un truc très vrai. On appelle ça maladie rare parce qu'on pense que c'est de l'ordre, je sais pas moi, 2-3 patients par million d'habitants et par an. Donc c'est super rare ça. Sauf que c'est multiplié par 15 causes différentes. Et puis ensuite, donc ça fait plus que 2 ou 3 par million d'habitants et par an. Et ensuite, on s'aperçoit maintenant qu'on les étudie mieux, qu'on passe à côté de les 3/4 des diagnostics. Donc ce qu'on considère rare n'est peut-être pas si rare que ça, et que c'est, il y a des formes un peu plus modérées, si vous voulez, qui existent, et que c'est quand même ça le problème de santé principale. Et donc, c'est pas très fréquent, c'est pas non plus pour nous quelque chose qu'on voit jamais. Dans le service, on en voit tous les mois, on en voit. Donc c'est pas si rare que ça.
Alors je pose cette question parce que peut-être que pour certaines personnes, se diraient « Ah, mais c'est une maladie rare, à quoi bon investiguer là-dedans? Pourquoi faire de la recherche si ça touche si peu de personnes ?»
C'est-à-dire que, en fait, le nombre de maladies rares dans le monde est très, très important. Et si on fait la somme de tous les gens qui ont des maladies rares, c'est une somme considérable de patients, avec parfois des pathologies extrêmement bénignes. Donc, quand c'est une pathologie bénigne, on peut dire « Est-ce que ça vaut le coup de mettre beaucoup, beaucoup d'argent pour faire ça ?» Et encore, ça se discute, parce qu'on ne sait jamais d'où le progrès scientifique va arriver. Et donc, flécher pour tel ou tel problème de santé, ça a ses avantages, mais ça aussi ses limites. Et puis, imaginez, si vous avez un enfant qui est handicapé dû à une maladie rare, on peut toujours vous dire « Oui, mais enfin, c'est pas fréquent, votre maladie. Hein, il y en a peut-être 20 comme ça en France. Il y en a peut-être 1000 dans le monde. » Mais c'est votre enfant. Et vous ne trouveriez pas normal qu'on ne fasse pas toutes les recherches pour qu'il aille mieux.
Et donc, si on suit bien ce que vous expliquez, c'est que c'est rare jusqu'à des preuves supplémentaires, jusqu'à ce qu'on en sache
plus. Oui, c'est-à-dire que probablement c'est plus fréquent que ce qu'on croit. Certaines formes, en tout cas, sont plus fréquentes que ce qu'on croit. Et donc, le but, c'est à la fois de mieux traiter les gens qui ont des formes graves, de reconnaître les formes plus modérées, et, comme l'a dit Sébastien, faire en sorte que tous les médecins soient suffisamment bien formés pour identifier le problème et mettre en place les traitements qui sont adaptés. Puis au niveau de l'équipe de recherche, bien comprendre comment ce type de maladie se passe, comment on peut y répondre. Ça donne des réponses pour cette maladie rare donnée, mais ça peut donner des réponses aussi pour d'autres maladies qui sont beaucoup plus fréquentes, comme l'infarctus du myocarde, comme l'accident vasculaire cérébral ou d'autres. Tout ça, c'est un continuum, en fait.
Oui, tout à fait. C'est vrai que la notion de maladie rare, c'est comme le disait Jean-Michel, c'est-à-dire qu'elle est rare pour l'instant parce que c'est le nombre de cas diagnostiqués. Et plus on aura de connaissances et qu'on saura mieux la décrypter, et certainement le nombre va augmenter. Effectivement, je rejoins aussi Jean-Michel sur le fait que même si c'est rare, notre objectif en tant qu'académique, c'est assurer qu'on a pour la recherche un niveau de connaissance qui s'applique à toutes les conditions. Pour les médecins, c'est pouvoir traiter le plus grand nombre de patients. Donc nous, on n'est pas assujettis à la loi des industries pharmaceutiques. Donc nous, c'est pas notre. On veut progresser les connaissances et progresser le niveau de soins. Je rejoins aussi Jean-Michel sur le fait que très certainement ces pathologies, elles sont pas bien connues parce qu'elles n'ont pas été bien diagnostiquées, parce qu'elles sont pas bien étudiées non plus sur le plan mécanistique. Mais très certainement, les mécanismes qui sont mis en jeu dans ces pathologies-là, ils sont très certainement redondants avec d'autres pathologies qu'on connaît bien. Et donc tout ça va s'auto-alimenter. C'est-à-dire que ce qu'on va étudier au départ dans la microangiopathie thrombotique, elle se fait par aussi analogie avec des choses qu'on connaît mieux, par exemple dans les maladies cardiovasculaires plus établies, dans l'infarctus du myocarde, l'AVC ischémique, on en parlait. Donc il y a certainement des parallèles qu'on va pouvoir faire. Mais même dans ces pathologies qui sont assez bien connues, assez bien traitées, il persiste toujours des cas. On ne sait pas expliquer pourquoi il y a une très grande variabilité interindividuelle, c'est-à-dire entre les patients. On ne sait pas expliquer pourquoi un patient va évoluer dans ce cas-là plutôt vers un stade qui est plutôt péjoratif. Et l'idée, c'est de se rendre compte de cette variabilité individuelle qui va être au cœur en fait des recherches dans ici les MAT, parce qu'on voit qu'il y a différentes causes qui peuvent être responsables de la même pathologie, mais pas toujours ces bouchons, on les a pas toujours dans les mêmes organes. Donc on va être amené à réfléchir aussi à cette notion d'individualité. Et puis pour ce qui est du chiffre, tout ça c'est très relatif. Hein. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, on a tous été vaccinés contre le Covid, sauf ceux qui ne voulaient pas, bien sûr. Mais, et puis à l'époque, on a vu qu'il y avait des événements qui étaient très rares, qui survenaient suite à la vaccination. Bon, c'était très très rare. Et par rapport et le rapport bénéfice-perte à l'échelle de la population générale, on avait plutôt intérêt à vacciner tout le monde quand même. Mais enfin, ceux qui avaient ces problèmes suite à la vaccination, c'était quand même pas hyper agréable, quoi. Donc on se rend compte quand même que oui, c'est rare, mais bon, on ne veut pas que ça nous arrive non plus, quoi.
Alors au sujet de travailler en réseau. Vous teniez justement un symposium le 21 novembre dernier, une réunion CRMR constitutif micro-angiopathie thrombotique. Donc voilà, puisque vous y participiez tous les deux, qu'est-ce que vous aimeriez dire sur ce genre d'événement, en fait, quelle est leur importance?
Alors d'abord, pour ce qui concerne cette réunion du 21 novembre de l'année dernière, c'était finalement une réunion d'ouverture de ce centre de référence, puisqu'on savait qu'on allait être accepté, même si officiellement on a eu la bonne nouvelle que le 1er janvier 2024. Donc par anticipation, on savait depuis mai de toute façon qu'on avait été accepté, ce qui était une grande nouvelle parce qu'il y a très peu de centres de référence en France. Dans ce domaine, il n'y en a que 6. Donc c'était une nouveauté. Et donc c'est pour montrer qu'on existait. Donc il y a un aspect communication et puis il y avait un aspect aussi de structuration et de réflexion commune, c'est-à-dire que On a parlé tout à l'heure des industriels. Il y a des industriels qui travaillent aussi sur les micro-angiopathies thrombotiques. Donc, on les a invités pour qu'ils voient ce qu'on fait en termes de recherche. Et puis, on a fait parler des gens d'horizons complètement différents, mais qui s'occupent plus ou moins de micro-angiopathies thrombotiques, des gens qui sont des néphrologues, qui s'occupent des maladies des reins, des gens qui sont des internistes, qui s'occupent des maladies un peu diverses et variées et compliquées à l'hôpital. On avait des biologistes, on avait des pharmacologues, on avait des réanimateurs dans cette réunion. Et donc l'idée, c'est que plus on peut travailler avec des gens différents, plus, bizarrement, il y a des idées amusantes qui sortent et des idées intéressantes. Et des trucs sur lesquels on se dit, bah, finalement, il faut qu'on travaille là-dessus. Et ça donne de l'enthousiasme à tout le monde. Et donc cette année, en 2024, donc on fera une réunion probablement le 19 novembre, un peu sur le même mode. Et là, on invitera aussi les représentants des patients. Parce que l'idée sera un peu différente. Ici, ça ne sera pas tellement pour dire aux laboratoires pharmaceutiques et aux autres scientifiques, regardez comment on est fort, mais plutôt de dire aux patients, dites-nous comment on peut vous aider. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on va le construire maintenant, la prochaine fois. Et puis, on essaiera chaque année de faire une réunion de ce genre avec des leaders d'opinion dans le domaine, des experts, certains locaux, on a quand même des experts, et puis certains nationaux, voire internationaux, dans ce domaine. Et puis petit à petit, ça donnera l'occasion aussi, à partir de là, de monter des projets divers et variés, avec des collègues, là encore, parfois locaux, parfois nationaux, et puis parfois en dehors de nos frontières.
Bon, vous en faites partie tous les deux, des 10 experts, mais... Quand on est labellisé centre de référence, ça donne, outre le fait de reconnaître l'excellence de la recherche qui est faite là, ça donne lieu à quoi ? Est-ce que ça donne des financements particuliers ?
Absolument, ça donne des financements. Jusque-là, on était centre de compétences. Centre de compétences, ça veut dire, comme j'ai tout le monde autour de moi, je te dis, ça veut dire travail, mais t'as rien. Voilà. C'est une situation qu'on connaît. Radio Campus fait partie de ce club. Travail, mais tu n'auras rien. Et donc, nous, on a eu la chance de passer à la situation travail, mais finalement, tu as un peu quelque chose. Et donc, grâce à ce financement, on a pu financer justement le recrutement d'une ingénieure de recherche de grande qualité qui s'appelle Nadine Barouk, qui s'occupe à la fois sur le plan fondamental et clinique des micro-angiopathies thrombotiques et qui nous aide à gérer la plus grande base mondiale dans le domaine. Donc son travail est vraiment indispensable. Un petit bout de secrétariat, un petit bout de technicien d'études cliniques. Et donc ça va nous aider. Donc on est très heureux de l'avoir. C'est l'élément essentiel finalement, c'est de pouvoir avoir recruté notre ingénieur de recherche Nadine Barouk qui a déjà un rôle fondamental et qui va continuer à avoir ce rôle fondamental dans ce centre de référence et puis en lien avec Ischemia. Donc on est très heureux de passer à cette étape-là et donc je souhaite à Radio Campus de passer également à cette étape-là, d'avoir un financement qui lui permette d'avoir des fenêtres et une climatisation, par exemple.
On va croire qu'on maltraite nos invités. Mais bon, à bons entendeurs, hein, cela dit. Et donc là, c'est de l'argent public.
De l'argent public, absolument.
Voilà, donc je pose cette question parce que sur cette réunion, on voit avec le partenariat des laboratoires pharmaceutiques, dont vous en avez parlé, donc Alexion, Sanofi, CLS Vifor.
Oui.
Donc là, peut-être pour nos auditeurs qui auraient un peu retort, qui vont se dire, mais du coup, c'est public ou c'est privé ? Ils sont financés par les labos ?
Alors,
comment ça marche ?
Alors d'abord, c'est pas retort, c'est mal informé. Je veux dire par là que le partenariat entre l'académique et le laboratoire pharmaceutique, il est indispensable. Pas de partenariat, pas de médicaments. Donc on peut toujours dire ces salauds, ils gagnent de l'argent, mais s'ils ne gagnent pas d'argent, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a aucun État communiste qui a créé un médicament qui a été mis sur le marché. Donc franchement, on a vraiment besoin d'eux. C'est un centre public, on reçoit de l'argent public, on dépense l'argent public et on fait attention à comment on le dépense. Et on est très soucieux de pouvoir réfléchir avec des industriels sur comment on peut avancer, en sachant que il faut pouvoir croire que les industriels sont juste là pour gagner de l'argent. Eux aussi ont une recherche personnelle. On a eu, par exemple, un partenariat il y a quelques années avec AstraZeneca. Et je ne le cache pas, j'en suis très heureux. Et j'ai pu rencontrer les chercheurs de Göteborg chez AstraZeneca. Et je peux vous dire que c'est des scientifiques exactement comme nous, qui ont les mêmes préoccupations que nous. Si on peut avoir des partenariats avec les industriels, c'est merveilleux et c'est parfait, c'est comme ça que ça doit fonctionner.
Voilà, donc il n'y a pas forcément de conflit d'intérêts à aller chercher tout le temps.
Non seulement il n'y a pas de conflit d'intérêts, mais on a besoin d'eux comme ils ont besoin de nous.
De toute façon, c'est vrai que nous, généralement, nous, on est sur les premières, phases en fait, de développement, soit d'un médicament ou soit d'un dispositif médical ou même d'outils diagnostiques, parce que ça répond à un besoin clinique. Donc c'est forcément à l'hôpital où on est confronté avec ces cas et où naissent, où en tout cas sont répertoriés les besoins et où naissent les idées. Généralement, c'est avec laboratoire de recherche où on va avancer et on développe la recherche fondamentale jusqu'à l'amener jusqu'aux phases précliniques. Généralement, c'est comme ça. Et puis, lorsqu'ensuite on veut que ça bénéficie aux patients, il faut qu'on puisse passer vers les phases cliniques du développement d'un médicament. Et donc là, pour ça, il faut évidemment que ça intéresse des partenaires privés, des industries pharmaceutiques, qui sont prêts aussi à investir pour le financement de ces essais cliniques et pour espérer un jour que le patient en bénéficie. Donc voilà, c'est vrai que ces partenariats, ils sont recherchés. Alors après, évidemment, chacun fait attention à ce que ce soit un travail en bonne entente. Mais c'est très recherché d'ailleurs par les institutions. Nous, on fait partie de l'INSERM, mais je dirais que l'université, c'est pareil. Ils souhaitent aussi que dès qu'il y a une valorisation possible qui sortirait des recherches académiques, on puisse la faire, on puisse la mener à bien. C'est aussi un retour vers la société et vers le patient. Après, c'est vrai que ça doit être contrôlé. Mais il y a généralement des services qu'on appelle des services de valorisation et des services de transfert qui existent dans nos différentes institutions et qui nous accompagnent à ces différentes étapes. Parce que c'est pas... pour moi qui suis académique, honnêtement, c'est pas simple. Donc heureusement qu'on a aussi des structures pour nous aider sur ces projets de valorisation.
Allez, le mot de la fin, parce qu'il est déjà 54, je me tourne vers vous, Jean-Michel Halimi. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs qui d'aventure viennent d'allumer leur poste et ne comprennent pas de quoi on parle ?
Eh bien, on s'intéresse à des maladies rares et complexes qui sont peu financées jusque-là. Et on essaye de voir comment on peut intéresser les gens dans différents domaines pour... améliorer le diagnostic, la prise en charge des patients. Et on souhaite aussi avoir certainement des partenariats industriels, c'est nécessaire. Mais au-delà de ça, un dialogue avec les patients sur leurs propres besoins, qui ne sont pas toujours ceux qu'on anticipe quand on fait les études. Et c'est très important de s'appuyer sur eux, parce que c'est des gens qu'on va suivre longtemps et qui nous font confiance. Donc on a besoin de bâtir un partenariat, pas seulement localement, mais nationalement, et on se voit quand même souvent. Donc c'est un travail intéressant, c'est un travail même passionnant, qui nous prend beaucoup, beaucoup de temps, les soirs, les week-ends, et on nous paierait plus à faire autre chose qu'on ne le ferait pas. Donc on est très heureux de faire ce qu'on fait, et on est très excité d'avoir à la fois un versant qui se passe à l'hôpital, et puis un versant qui se passe... À l'INSERM, et si les jeunes peuvent entendre ce genre de message, de faire des choses qui plaisent, même si on passe énormément de temps, et surtout si on passe énormément de temps, c'est très très fun.
C'est de la science avec et pour la société alors ?
Alors ça, c'est mon chef à qui il faut parler.
Non, mais c'est vrai que nous, on a toujours été très investis. Jean-Michel a parlé des associations de patients. C'est très important parce qu'on ne fait pas de la recherche juste pour nous, pour satisfaire notre besoin de répondre à des énigmes. L'objectif, c'est quand même que ça revienne à la société qui nous, d'abord qui nous paye, parce qu'on est quand même fonctionnaire. Donc ça, il faut quand même se rappeler qu'on a quand même un devoir auprès de la société. Et aussi, donc, évidemment, en particulier auprès des patients, mais pas seulement. Donc nous, sur nos différents projets, on mène toujours des projets, ce qu'on appelle SAP, donc la science avec et pour la société, où on invite régulièrement des jeunes à venir dans le laboratoire. On leur explique nos projets. On va se déplacer aussi dans les collèges, dans les lycées. On fait beaucoup d'actions comme ça vers le grand public. Et on est très content de le faire. Et donc, pour compléter la réponse de Jean-Michel, pour celles et ceux qui n'auraient pas bien compris ce qui a été dit pendant cette émission, eh ben on les invite à revenir au calme à Ischemia et on repassera un petit peu de temps à leur expliquer.
Et visiter le labo.
Et à visiter le labo.
Bon bah alors moi, je prends rendez-vous direct pour visiter le labo. Et du coup, j'invite nos auditeurs aussi à aller sur le site que je mettrai en lien sur ce podcast. Là puisqu'il y a des podcasts justement où on entend des patients et des patientes, c'est sur le site qui s'appelle MARIH. Voilà, donc c'est où on entend des podcasts sur le syndrome hémolytique et urémique atypique, donc le CHUA. Il y en a un aussi sur le purpura thrombotique et thrombocytopénique, voilà, PTT, rien à voir avec la poste. Du coup, vous pouvez aller sur ce site que je mettrai en lien si certains veulent en savoir plus sur ces différentes maladies, puisque je pense que c'est lié aussi à ce dont vous parliez.
Vous avez fait des progrès fantastiques, là. Déjà, ah ouais. Vous connaissez le nom de certaines maladies qui donnent des micro-angiopathies thrombotiques. Je n'avais pas osé prononcer leur nom, mais vous l'avez fait de manière remarquable. Et c'est effectivement des problèmes de santé graves et qui nécessitent des prises en charge particulières. Et c'est une bonne chose de pouvoir écouter les patients.
Alors, rendez-vous sur ce site. Merci beaucoup à vous deux, messieurs, d'être venus dans cette méridienne, notre humble radio associative locale, qui est bien contente aussi de parler de science.
Merci à vous.
Merci.
Et on va se quitter en musique. On va écouter Zora. C'est parti.